Radio Harmonie Cornouailles, la radio qui vous aime.
Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Bettina Lioré. Bonjour Bettina.
Bonjour.
En tout cas, ravie de vous accueillir dans nos studios.
Merci de me recevoir.
Vous êtes donc une consoeur.
C'est ça.
De France Inter, vous vous occupez donc d'une émission sur les affaires sensibles. Vous faites partie également d'un collectif qui s'appelle FECOF. C'est un projet collaboratif français dédié à la lutte contre la désinformation et les fausses informations. Vous allez nous donner un peu quelques détails sur ce collectif. Vous œuvrez auprès des jeunes pour les sensibiliser à la manière de comprendre ou d'analyser et critiquer les informations qu'ils rencontrent quotidiennement. Merci vraiment de venir dans nos studios. Je peux dire que vous êtes spécialiste de l'éducation aux médias et à l'information. Alors Bettina, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information ?
D'accord. Alors, l'éducation aux médias, c'est un domaine, c'est comme une matière qui existe depuis une petite cinquantaine d'années et qui vise à expliquer au grand public à se repérer dans les médias, mieux comprendre les informations, mieux analyser la fiabilité des informations et puis développer l'esprit critique des personnes pour voilà, qu'elles ne croient pas tout ce qu'elles lisent, consultent et qu'elles soient en fait en mesure de devenir des citoyens et des citoyennes éclairées.
D'autant plus qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans l'accès à l'information chez les jeunes. Alors comment vous intégrez cet aspect dans vos interventions avec les jeunes ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes s'informent principalement sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi le cas des adultes. Et donc, l'objectif, bah, pour moi, c'est de leur donner des outils pour voilà, essayer de savoir si une info croisée sur les réseaux, Instagram, TikTok, Snapchat, va être fiable ou pas. Donc, je prends des exemples très concrets, par exemple, de rumeurs qui circulent sur les réseaux. Et on va la décortiquer ensemble, on va la débunker ensemble. Et souvent, on part d'une rumeur à laquelle ils croyaient et on arrive à un constat totalement différent où ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont fait avoir. Et j'espère que grâce aux outils que je leur transmets, bon, ils ne se feront plus avoir. Le but étant, encore une fois, de développer leur esprit critique. Donc ça, on le met en place surtout avec des jeunes. C'est vrai que l'éducation aux médias, on a l'impression que ça cible hein, de manière assez naturelle les adolescents. En réalité, les adultes gagneraient aussi à se former à l'éducation aux médias et notamment sur les réseaux sociaux. Les personnes âgées sont très intéressées par cette thématique et je signale que c'est ce groupe de personnes qui partagent le plus de fake news sur les réseaux, donc c'est important aussi d'aller les sensibiliser. Bref, ça intéresse tout le monde et je pense que c'est un peu d'utilité publique. Sans vouloir me jeter des roses, des fleurs, en tout cas, j'ai l'impression que ça a du sens de faire ça et je le fais aussi de mon côté, mais aussi avec l'association FECOF.
D'accord. Il faut dire que vous êtes en résidence ici à Concarneau, organisé en partenariat avec les médiathèques du Finistère.
Avec la médiathèque du Finistère et la communauté d'agglo de Concarneau-Cornouailles.
D'accord. Et vous intervenez dans des collèges sur notre territoire, pas oui. que, mais aussi auprès des entreprises ou pas
Alors, l'objectif premier, c'est de faire de la sensibilisation, d'avoir des discussions, de faire des conférences, soit avec des publics adolescents, soit avec des adultes. Effectivement, moi, j'ai très envie d'aller former les adultes en passant par les entreprises, mais c'est difficile, je trouve, de créer cette envie-là de la part des entreprises qui sont la plupart du temps motivées par l'augmentation de leur chiffre d'affaires et non pas tant par former leurs salariés comme on pourrait le souhaiter. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense qu'il y a des entreprises qui pourraient être sensibles et considérer qu'elles ont un rôle à jouer dans la formation de leurs employés pour que ces personnes-là ne diffusent pas de fausses informations et protègent de fait aussi l'image de leur entreprise. Donc voilà, ça c'est peut-être le chapitre suivant. On verra si c'est possible.
Donc ça fait partie des défis que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous rencontrez dans votre intervention auprès des jeunes ou des moins jeunes concernant l'éducation aux médias et à l'information?
La plupart du temps, les gens sont très contents de me recevoir, très intéressés, et moi et les autres formateurs en éducation aux médias, très intéressés. Donc ça se passe souvent très très bien. C'est très rare que je me retrouve nez à nez avec quelqu'un qui va tenir un discours complotiste ou quoi. Franchement, la plupart du temps, ça se passe très bien. Les défis, c'est qu'en fait, on est face à aujourd'hui des réseaux sociaux, des algorithmes, une désinformation qui est en fait organisé par des intelligences artificielles. Donc on a une technologie qui nous dépasse et nous, les outils qu'on a pour lutter contre ce phénomène-là, ils sont un peu en retard par rapport à cette puissance de la désinformation qui se met en œuvre sous nos yeux. Je pense notamment à Elon Musk qui a racheté X et qui s'en sert pour faire de la propagande politique et qui diffuse des fausses informations. Nous, on intervient dans les collèges, on intervient dans les mairies, dans les bibliothèques. On fait ce qu'on peut, mais on a un peu l'impression d'éteindre des feux. Et parfois, c'est vrai qu'on doute de notre impact quand on sait que les gens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux et que parfois, c'est plus simple de croire à quelque chose, surtout quand ça va dans le sens de nos croyances. Mmh. Voilà, donc ça demande un effort de s'informer et c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Pour ceux qui se joignent à nous, je suis avec Bettina Lioret. Elle est spécialiste de l'éducation aux médias et à l'information, en résidence ici à Concarneau. Elle intervient dans les collèges, mais aussi auprès d'un public adulte. Nous parlons donc de ces interventions sur l'éducation aux médias et à l'information. Bettina, comment est-ce que les jeunes ou les gens que vous rencontrez réagissent par rapport à l'enseignement que vous apportez sur ce sujet?
Les gens sont très enthousiastes, les élèves sont très enthousiastes, surtout quand on commence par parler des réseaux sociaux. C'est vrai que ils n'ont plus le droit d'utiliser leur portable à l'école, donc ça devient on leur met beaucoup de pression sur les réseaux sociaux, on leur parle de cyberharcèlement et tout ça est une réalité. Moi, je préfère les accompagner en leur disant voilà, c'est pas grave de s'informer sur les réseaux sociaux. L'important c'est de savoir repérer les informations fiables et celles qui sont moins fiables. Donc par exemple, je leur fais sortir leur téléphone et je les invite à suivre des médias d'informations fiables, par exemple Ouest France sur Instagram, Le Monde sur TikTok, pour qu'en fait leurs algorithmes comprennent que eux ils sont en recherche, en quête d'informations fiables. Donc là ça se passe toujours très bien. Les profs sont très contents que des professionnels, des journalistes viennent dans les classes parce que tout d'un coup les élèves vont être plus attentifs que quand c'est les profs qui parlent. On est très bien reçus. Voilà. De manière générale, on est très bien reçus partout.
Donc, il faut peut-être enseigner aux jeunes l'importance du journalisme.
Oui, alors.
Qui est un métier, en fait.
Absolument. C'est vrai que moi, avant de parler de désinformation, je parle toujours de ce que c'est qu'une information. C'est pas si évident. Qu'est-ce que c'est une information? Par exemple, une information, c'est pas une opinion. Et ça, sur les réseaux sociaux, on le voit, il y a beaucoup de gens qui font passer leur opinion pour des informations et sur certaines chaînes d'opinion qu'on connaît. Donc, c'est des petites distinctions comme ça à mettre en place. Une information, c'est pas un contenu. Il y a des choses à savoir. Une information, ça doit apporter de la nouveauté, ça doit intéresser pas mal de personnes. On commence par là, parler aussi de la liberté de la presse, des risques que courent certains journalistes quand ils vont couvrir des guerres sur des terrains très dangereux ou qui sont dans des dictatures, etc. Donc voilà, on parle de Reporters sans frontières, on leur donne des chiffres, on les fait réagir. Et après ça, évidemment, on va arriver sur la désinformation qui existe aussi. Mais c'est vrai qu'on est obligé de rappeler ce que c'est qu'un journaliste. Ça permet aussi de résorber la défiance, la méfiance qui existe de plus en plus entre les citoyens et les journalistes. C'est aussi notre devoir, nous, en tant que journalistes, de venir expliquer comment on travaille. Parce que c'est très facile de dire « faut croire les journalistes », mais si on ne sait pas comment les journalistes travaillent, pourquoi ils devraient nous faire confiance ?
Bettina Lioret, vous êtes donc journaliste à France Inter, mais aussi vous animez donc sur des ateliers sur l'éducation aux médias et à l'information. Et on l'a dit, vous faites partie aussi d'un collectif qui s'appelle Fake Off. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce collectif ?
Oui, c'est une association de journalistes qui travaillent tous dans l'audiovisuel et qui a été créée à la suite des attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo. Parce qu'en fait, certains journalistes se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de fake news autour de cet événement. Il y avait des rumeurs qui se mettaient à circuler sur comment se fait-il que les journalistes soient là, soi-disant les journalistes étaient au courant. Enfin, des rumeurs vraiment aberrantes qui ont interrogé pas mal de journalistes qui se sont finalement décidés à aller faire preuve de transparence, comme je vous le disais tout à l'heure, parler du métier de journaliste pour essayer de résorber la crise de méfiance, de défiance qui existe entre les citoyens et les journalistes. Cette association-là a décidé de s'organiser. Donc on est une petite centaine, 50, je ne sais pas exactement, de journalistes. On intervient dans toute la France, on a différentes antennes. Pour mener des ateliers de sensibilisation, de production. On fait aussi des émissions de radio avec différents publics, des podcasts, des films, pour permettre aux gens de comprendre en quoi consiste le métier de journaliste et à quelles difficultés est-ce qu'on est confronté. Et on fait aussi de la formation à destination des animateurs, des professeurs, des bibliothécaires, tout un tas de personnes qui ont besoin de se former parce qu'elles accueillent du public et qu'elles peuvent être amenées à devoir répondre à des interrogations du public.
Il n'y a pas que les journalistes au sein du collectif, il y a d'autres...
Non, c'est essentiellement des journalistes, journalistes audiovisuels et presse écrite. Donc, tout le monde est journaliste, tout le monde a une...
D'accord. Donc finalement, le collectif lutte contre la manipulation, on va dire.
Ouais.
Manipulation de l'information et la désinformation. Comment vous vérifiez les informations qui circulent concrètement ?
Moi, dans le cadre de mon travail, évidemment, je suis obligée de vérifier toutes les informations, en tout cas chez Affaires Sensibles, comme tous les journalistes. Quand je suis avec des jeunes ou en atelier, je vais leur présenter, par exemple, différents types de fausses informations. Parce qu'en fait, on dit fake news, mais derrière, il y a toute une multiplicité de fausses informations. Donc, il y a par exemple la rumeur. Ça les intéresse, les rumeurs. Dans les collèges, il y a beaucoup de rumeurs. Bon, voilà. Je leur parle, par exemple, quand je leur parle d'une rumeur de Samuel Paty, le prof d'histoire géo qui a été tué dans un attentat par un terroriste. Ce drame est lié à une rumeur. À l'origine, il y a le mensonge d'une jeune fille qui va raconter quelque chose de faux à son père, puis ce dernier va diffuser des fausses informations sur les réseaux. Le procès est en cours d'ailleurs. Voilà, à l'origine de cette affaire, il y a une rumeur. La rumeur, elle est partout. La rumeur sur les camionnettes blanches. On en voit partout des rumeurs. Donc, je parle de la rumeur, je parle de la théorie conspirationniste, la théorie du complot, qu'est-ce que c'est ? Je parle aussi de tous ces sites de blagues ou alors des sites qui parodient l'actualité ou alors des sites de désinformation où on diffuse des fake news pour manipuler l'opinion. Les arnaques, il y a toute une multitude de types de désinformation. Il faut les connaître pour pouvoir les repérer.
Il faut dire que la désinformation peut avoir un impact sur notre société, sur plusieurs domaines. La démocratie, par exemple, ça peut aussi toucher la santé publique.
Absolument, c'est complètement d'actualité. Là, avec les élections américaines, on voit que Donald Trump, en diffusant un nombre inimaginable de fake news via les réseaux, a réussi à convaincre. Et en fait, à être élu. Alors, on sait qu'il y a d'autres raisons qui ont mené à son élection. Mais en tout cas, aujourd'hui, la désinformation permet à des personnes d'accéder au pouvoir. Et les réseaux sociaux jouent un rôle central. Donc, il faut s'en méfier. Il faut savoir que les gens qui créent des fausses informations, ils ont deux objectifs. Un objectif qui est d'influencer et un objectif qui est de gagner de l'argent. On oublie trop souvent qu'il y a plein de gens qui ont créé des sites de désinformation tout simplement pour toucher des revenus publicitaires. Parce que vous avez des marques qui vont acheter des espaces publicitaires sur des sites de désinformation. Donc vous avez des grandes marques aujourd'hui qui financent la désinformation. Voilà, donc ça c'est des questions qui doivent être posées, mais je pense que la question de le modèle économique de la désinformation, il est important et il intéresse tout le monde. Les ados, ils ne comprennent pas comment les réseaux sociaux gagnent de l'argent, ça ne les intéresse même pas. Ils ne se posent pas la question de qui s'enrichit en fait. Donc je pense que cette question-là, elle est intéressante aussi à aborder.
Peut-être avant donc, de conclure notre entretien avec l'intelligence artificielle, quelles sont les prochaines étapes pour renforcer l'éducation aux médias et à l'information auprès des jeunes?
Alors, je ne sais pas si l'intelligence artificielle va nous aider à renforcer l'éducation aux médias, mais peut-être que je me trompe, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est plutôt l'inverse. C'est que grâce à des intelligences artificielles, là, par exemple Midjourney qui va générer des images à partir de mots-clés, on a des images générées de toutes pièces qui circulent et qu'on peut faire passer pour des vraies photos alors qu'elles n'en sont pas. Pareil pour des générateurs vidéo. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui peuvent générer des vidéos à partir de mots-clés. Donc ça, ça met en péril déjà beaucoup de métiers, beaucoup de professions. Mais surtout, ça renforce en fait les difficultés qu'on connaît face à l'information. Si je ne peux plus m'appuyer sur une photo ou sur une vidéo ou sur un texte, puisqu'il a peut-être été généré par ChatGPT, alors ça complique les choses. Mais il y a quand même des solutions. Et des réflexes, j'en profite, hein. Faut toujours se poser la question de qui me parle, est-ce que cette personne a une légitimité, la personne qui a posté cette vidéo, qui est-elle? Quand est-ce que cette photo a été postée? Est-ce que cette photo n'a pas été sortie de son contexte? On peut faire une recherche d'image inversée, voilà, on peut se poser la question aussi de où est-ce que j'ai trouvé cette information, entre guillemets, est-ce que je l'ai trouvée sur un média où il y a des journalistes qui vérifient les infos, ou est-ce que je l'ai trouvée sur un réseau social où n'importe qui peut poster n'importe quoi? Voilà, à partir de ces petites questions simples, et aussi en regardant s'il y a des sources, bon, on peut déjà se faire une idée sur la fiabilité. Donc, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, j'espère qu'elle va se mettre au service de l'éducation aux médias. Mmh. Voilà.
En tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, Bettina Lioret.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes journaliste à France Inter. Vous êtes également spécialiste de l'éducation aux médias et à l'information, en résidence donc à Concarneau, organisé par les médiathèques du Finistère. Merci d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir traité ce sujet très intéressant sur l'éducation aux médias et à l'information.
Avec plaisir, merci à vous.